Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Face à la baisse inquiétante du nombre de naissances en France, les chrétiens ont-ils un rôle particulier à jouer ? La France a enregistré une chute historique de sa natalité en 2023 avec une baisse de 6,6% par rapport à l'année précédente. Et selon l'INSEE, cette tendance se confirme en 2024 avec une nouvelle diminution de 2,7% par rapport à la même période de l'année précédente. Nous verrons donc pour l'année 2025 ce qu'il en est. Les familles chrétiennes ont-elles un rôle particulier à jouer en croissant et se multipliant, comme l'indique le livre de la Genèse ? C'est toute la question de la parentalité responsable que nous abordons aujourd'hui avec Aude Surami. Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes maître de conférence en philosophie à l'Institut catholique de Toulouse. Vous intervenez aussi auprès de l'Institut pontifical Jean-Paul II de Rome et l'Institut de la théologie du corps de Lyon. Merci d'être là aujourd'hui avec
Merci
nous.
Merci à vous.
Qui dit paternité et maternité dit don de la vie et don des époux l'un à l'autre. Comment comprendre ces différents dons, Aude Surami ?
Le don des époux, qu'on appelle aussi le don sponsal, est le don de soi-même tout entier à un autre qui a été choisi, à l'homme ou à Dieu. Et il est le plus grand des dons, nous dit en tout cas Carole Wojtyła dans un ouvrage important sur la parentalité. Cet ouvrage qui s'appelle « Amour et responsabilité ».
Qui est devenu après le pape Jean-Paul II.
Et qui est devenu après le pape Jean-Paul II. Et c'est le plus grand des dons. Que puis-je en effet donner de plus que ma vie, que tout ce que je suis, corps et âme, que puis-je aussi accueillir de plus en moi que le don d'un autre s'offrant tout entier à moi. Donc pour Jean-Paul II, ce don des époux, il est paradigmatique de tout amour. C'est-à-dire qu'il est le premier exemple de l'amour parce qu'il nous invite à comprendre ce qu'est l'amour au plus haut point. Et par son intensité, en fait, cet amour sponsal manifeste l'ordination radicale d'une personne humaine à une autre, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce que l'homme est fait pour un autre.
C'est ce que dit le livre de la Genèse.
Et Saint Jean-Paul II, durant tout son pontificat, va, comme un leitmotiv, ne cesser de marteler cette phrase de Gaudium et Spes 24. L'homme, seule créature que Dieu ait voulu pour elle-même, ne peut se trouver que dans le don sincère de lui-même. C'est vraiment son leitmotiv, il n'y a quasiment pas un discours où il ne reprend pas cette phrase.
D'accord, donc ça c'est vraiment cette notion du don qui est constitutif finalement de la personne humaine. Qui permet au couple de se donner, de recevoir et qui fait sa spécificité.
Oui.
Oui. L'un des piliers du mariage est la fécondité, donc ce qui découle de ce don. Les époux sont invités à donner la vie. Comment accueillir cette fécondité ?
Il faut peut-être que je commence à parler un petit peu de ce qu'est ce don parental pour pouvoir comprendre comment accueillir cette fécondité. Le don parental, il découle du don sponsal. Il y a le don de la vie qui est reçu par un enfant, ce don qui est toujours un don de Dieu, mais auquel les parents vont participer comme procréateurs en ayant la tâche et la responsabilité immense d'accompagner au quotidien le don du Créateur en se donnant à l'enfant comme parent, sans oublier aussi que l'enfant donne aux parents de devenir père et mère. Et on est face à un don immense qui peut aller jusqu'au don de sa vie. Un exemple frappant, je crois, est celui de Chiara Corbella Petrillo, une jeune femme en voie de béatification, décédée à Rome en 2011, avant de décéder d'un grave et douloureux cancer. Elle est enceinte et elle refuse la chimiothérapie le temps de la grossesse pour ne pas porter atteinte à la vie de son enfant, au risque de décéder de son cancer. Mmh. Elle met au monde cet enfant et entame bien tard donc cette chimiothérapie. Et avant de décéder de son cancer, elle confie à son mari que c'est lui qu'elle aime le plus et que c'est lui qu'elle a le plus de difficultés à quitter, quand bien même elle a accepté de donner sa vie et dans d'atroces souffrances pour son enfant. Et cet exemple, évidemment, est héroïque, mais je crois qu'il est très, très important parce qu'il nous rappelle la primauté de l'intégralité et de l'exclusivité du don des époux sur le don parental, quand bien même ce don parental est poussé à l'héroïcité et peut réclamer le don de sa vie.
Donc il y a une hiérarchie des dons.
Il y a une hiérarchie des dons et ils ont chacun leur excellence propre. Et Xavier Lacroix insistait sur le fait qu'il est important que ce don sponsal demeure premier, que l'amour des époux demeure premier, sans quoi l'enfant sentirait peser sur lui une dette de réciprocité et ne pourrait pas librement s'envoler du nid en se sentant le seul responsable du bonheur de son père et de sa mère. Et je crois que l'exemple de Chiara Corbella Petrillo, qui dit à son mari que c'est lui qu'elle a le plus de peine à quitter, est vraiment un exemple important.
Et c'est très parlant. D'accord. Donc ça, c'est sur c'est ce que vous nous expliquez, Othuramy, sur le don parental.
Sur le don parental, oui.
Est-ce qu'on peut parler maintenant de cette fécondité, voilà, comment l'accueillir?
Et accueillir la fécondité, en fait, est intrinsèque au fait d'accueillir le don. Si on prend un exemple, si vous me proposez le don de votre amitié et que je choisis de recevoir ce don, je choisis d'accueillir votre amitié comme un bien et je choisis en même temps d'accueillir dans la joie les fruits de ce bien de l'amitié. Des fruits que je ne connais pas par avance, mais je sais que cette amitié, parce que l'amour est toujours fécond, je sais que cette amitié portera du fruit d'une manière ou d'une autre, que j'en serai transformée. Ce bien va rayonner autour de lui, va diffuser de lui-même, comme le dirait saint Thomas d'Aquin. Et cela est valable pour l'amour d'amitié, et qui plus est, pour l'amour sponsal, pour l'amour des époux. Et le contenu du fruit de la rencontre de deux altérités est souvent ignoré des partenaires du don au moment où il se donne, mais il doit nécessairement être désiré pour que le don soit véritable. Donc, refuser la fécondité du don serait ne pas consentir pleinement au don. Même si on peut le faire sans avoir pleinement conscience du don, mais il est bon de prendre conscience que accepter le don, c'est accepter la fécondité qui va en découler et qu'on ne connaît pas toujours. Et le don sincère, qui est le don d'amour, suppose l'adhésion joyeuse à sa fécondité. Et je pense que la joie est quelque chose d'important, ouais. Parce que si on reçoit quelque chose comme un cadeau, comme un don, comme un bien, on le reçoit dans la joie. Et donc cette fécondité, elle est aussi accueillie dans la joie. Donc les amants ne peuvent se donner vraiment l'un à l'autre sans accueillir avec joie la nécessaire fécondité du don de leur amour. Fécondité qui les fera inéluctablement rentrer dans une paternité et une maternité de l'amour. Paternité et maternité qui pourront éventuellement passer par un engendrement charnel, pourront ou non. Il y aura ou non le don d'un enfant, mais il y aura toujours une fécondité de l'amour.
Mais ce qui est étonnant, Othuramy, c'est que vous parlez déjà de paternité alors qu'il n'y a pas forcément d'enfant.
Oui, parce qu'il n'y a pas forcément d'enfant, mais finalement, il y a cet amour sponsal qui porte du fruit me rend père ou mère, même si ce n'est pas un engendrement charnel. Et les couples infertiles ne sont pas des couples inféconds. Pas du tout. Il y a mille et une manières de
porter du fruit.
De porter du fruit et de rayonner du bien de l'amour qu'on a reçu et qu'on a donné.
Alors, on va parler de cette paternité et cette maternité responsable. Pour faire plus simple, on l'appelle maintenant parentalité responsable. Oui. Comment vous pourriez la définir, Othuramy?
L'union des époux, l'acte d'union des époux est un acte libre nécessairement, on connaît certaines de ses conséquences Et l'homme a donc la responsabilité des conséquences de son acte. Mais avant de revenir sur cette responsabilité, j'imagine les personnes qui m'entendent et qui disent c'est facile de dire que pour accueillir pleinement l'amour de mon époux ou de mon épouse, cela suppose nécessairement d'accueillir la fécondité qui en découle. Mais en ce moment, je vois bien qu'on n'a pas la capacité matérielle, pas les ressources psychologiques, la solidité conjugale, etc., etc., pour accueillir d'une manière qui nous semble convenable et adéquate un deuxième enfant ou un dixième enfant, selon les cas. Pourtant, je voudrais bien accueillir pleinement le don d'amour de mon époux, de mon épouse, et ce don, il s'exprime au plus haut point dans l'union des corps. Alors, on fait quoi ?
Oui.
Alors, on fait quoi ? Compte tenu de ce qu'explique Jean-Paul II dans Amour et responsabilité, j'imagine qu'il répondrait que c'est là une question responsable, justement.
Ah oui, déjà.
Parce que, il est important de considérer les conséquences que peuvent avoir nos actes. Et les conséquences, elles sont immenses, avec une responsabilité géante, voire même qui peut être effrayante. Alors, on fait quoi ? Il y a des périodes du cycle où il faudra s'abstenir de l'union charnelle parce qu'il ne serait pas responsable de songer à concevoir un enfant en l'état actuel. Par conséquent, durant ces périodes du cycle de la femme où la femme est particulièrement féconde, on pourra trouver, ou particulièrement fertile aussi, on pourrait dire, on pourra trouver d'autres formes d'expression de notre amour et trouver aussi l'occasion de le fortifier d'une manière nouvelle. C'est un peu comme le jeûne qui peut permettre de retrouver le goût et le sens de la nourriture. Ces périodes d'abstinence, qui ne sont pas une période d'abstinence de l'amour, mais une période d'abstinence d'une forme d'expression qui est l'union charnelle, peuvent permettre d'en retrouver le goût et d'en redécouvrir le sens profond. Et ça peut être l'occasion de purifier aussi mon amour, qui ne saurait faire que de l'autre, comme de moi-même d'ailleurs, un instrument de jouissance ou un instrument de reproduction. Chose sur laquelle Wojtyła insiste énormément dans Amour et responsabilité, et chose pour laquelle nous pouvons toujours faire des progrès, nous avons toujours des progrès à faire, notre amour est toujours imparfait. Donc, cela peut être vraiment une occasion pour cheminer vers plus d'amour. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'on ne peut pas s'opposer catégoriquement à la fécondité de l'amour, car c'est s'opposer à l'amour lui-même. On peut accepter que cette fécondité ne passe pas par un enfant, éventuellement par autre chose, mais on ne peut pas s'opposer catégoriquement à la conception. On doit en revanche avoir une paternité, une maternité responsable qui opte pour une régulation naturelle des naissances. Et si l'enfant survient alors qu'on pensait que c'était pas le moment et qu'on avait tout fait pour essayer de différer sa venue parce que voilà, ça nous semblait pas responsable, accueillons avec joie cette fécondité du don d'amour. Fécondité qui nous dépasse et qui dit aussi la surabondance de l'amour de Dieu, dont les pensées sont au-dessus de nos pensées, pour qui rien n'est impossible et qui, dans sa miséricorde, saura nous aider à accomplir nos missions de parents.
Alors, cette paternité responsable se comprend à quatre niveaux. Vous les avez un petit peu ébauchés. Au-dessus, Rami, les processus biologiques, les tendances de l'instinct et des passions, les conditions physiques, économiques, psychologiques et sociales, et puis l'ordre moral établi par Dieu. Est-ce que, si vous pourriez nous expliquer d'abord les deux premiers niveaux, les processus biologiques et les tendances de l'instinct, des passions qui caractérisent cette paternité responsable ?
Oui, accueillir sa paternité responsable, c'est pas mettre ses passions en cage.
Oui.
Et Jean-Paul II nous l'explique bien. L'instinct sexuel, la passion sont des choses bonnes qui sont créées par Dieu, qui me disent que l'autre est un bien, que l'altérité est un bien, que la différence sexuelle est un bien, que la transmission de la vie est un bien. Donc je suis attirée à l'autre, j'ai envie de m'unir à mon époux, à mon épouse. Alléluia, merci Seigneur.
Mmh. Et qu'on ne dise pas que la foi catholique est contre la sexualité.
Eh non, pas du tout. Mais comme ma nature n'est pas seulement plus pulsionnelle, mais aussi rationnelle, ces bonnes et belles pulsions, je ne dois pas les réprimer, mais les intégrer à la hauteur de ma dignité de personne humaine, qui est à la fois charnelle et rationnelle. Donc, ne pas faire de mon amour quelque chose de seulement rationnel, ce qui serait complètement inhumain, ce qui ne serait pas un amour à la hauteur de la dignité de ma personne, et ne pas faire de mon amour quelque chose de seulement animal, ce qui ne serait pas non plus à la hauteur de ma dignité de personne.
Personne humaine.
Et voilà ces éléments qui peuvent faire que ma paternité et ma maternité deviennent responsables.
Deviennent responsables, oui. Alors, si on parle maintenant de ces deux autres niveaux, les conditions physiques, économiques, psychologiques et sociales, on va peut-être déjà s'arrêter là. Qu'est-ce que ça signifie, en fait, pour la parentalité responsable ?
Les conditions physiques, j'imagine une femme qui sort d'une grossesse difficile, qui se peine à se remettre, qui est malade, peut-être gravement malade. Peut-être qu'on peut dire que c'est difficile physiquement de pouvoir, pour nous, de pouvoir accueillir en ce moment un enfant. Et donc, il serait peut-être sage de différer notre union pour pouvoir avoir le temps de se remettre, d'être mieux préparée pour pouvoir accueillir cette forme de fécondité de notre amour. Et pour les conditions psychologiques, ça revient un peu au même. Pour telle ou telle raison, je ne sais pas, je
suis en ce moment en dépression, une grosse fatigue, oui, c'est ça.
Ou notre couple ne va pas très bien. Il y a des tas de choses, des circonstances de la vie et nos fragilités qui sont à prendre en compte pour pouvoir décider en prudence, c'est-à-dire dans chaque cas concret. On ne peut pas faire un listing pour dire là, ce serait bien de prévoir d'avoir un enfant, là, ce serait bien de songer à différer sa venue. Non, c'est à chacun... en conscience,
de discerner en
étant donné
vérité,
les circonstances qui sont toujours différentes, de discerner ce qui est le plus approprié.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il en est de cet ordre moral établi par Dieu ?
Cet ordre moral établi par Dieu, c'est l'ordre que l'on retrouve dans notre nature, donc c'est l'ordre qui exprime nos pulsions et aussi notre raison. Mais je crois qu'il est important de rappeler que la responsabilité parentale, ce n'est pas seulement de mettre les enfants au monde, évidemment, mais c'est de les accompagner dans ce monde par des moyens matériels et spirituels. Il s'agit de les introduire dans le monde pour qu'ils puissent y être heureux, y grandir, s'y épanouir, trouver leur bien, trouver leur fin, en ayant à l'esprit que la fin des fins, c'est le souverain bien que nous cherchons, le souverain amour, qui est de Dieu lui-même. Et c'est pour cela que cette responsabilité parentale est gigantesque, qu'elle est exaltante et qu'elle peut paraître légitimement effrayante, parce que le but de la parentalité, c'est de pouvoir conduire l'enfant à trouver sa fin qui sera aussi la raison de ses actes libres et la raison de sa libération, de sa liberté dans des actes de dons qu'il pourra poser. Et en fait, c'est de pouvoir permettre à l'enfant de se conduire jusqu'à Dieu. Et c'est ça, je crois, l'ordre moral que Dieu a établi en nous donnant... cette fécondité de l'amour, de pouvoir être procréateur et mettre au monde un enfant et avoir cette responsabilité immense de le conduire vers Dieu lui-même.
Mmh. Alors, je vous propose qu'on continue, après une pause musicale, cette réflexion sur la parentalité responsable. On va voir comment elle s'applique à l'éducation des enfants. Voilà, jusque vous avez dit qu'il fallait conduire l'enfant jusqu'à sa fin, sa destinée finale, voilà.
Ah oui.
Mais concrètement aussi, il faut regarder ce que ça implique. Je vous propose d'écouter Papa, interprété par le groupe Open.
Passer mon temps à penser à elle, ça paraît simple, c'est pas si facile. Et ce matin, maman l'a fait belle, d'une robe qu'elle lui enfile. Les yeux en l'air, c'est fou que je l'aime, et que j'ai l'air un petit peu débile. J'aimerais pouvoir lui décrocher la lune, mais être père, c'est pas si facile. Les nuits sont longues et les jours sont courts. J'improvise et je comprends pas comme le monde est devenu fou. Depuis que je suis devenu papa, 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 papa. Depuis que je suis devenu papa, 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 papa. Depuis que je suis devenu papa. Les heures, c'est fou, le temps file. 8h15, retard à l'école. Le sac au dos dans les poches des billes. Mon petit homme souvent se cogne. Et sa maman se fait de la bile. Quand il se marre, qu'est-ce qu'on rigole. Mais être père, c'est pas si facile. Les nuits sont longues et les jours sont courts. J'improvise et je comprends pas comme le monde est devenu fou. Depuis que je suis devenu papa, 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 papa. Depuis que je suis devenu papa. J'improvise et je comprends pas comme le monde est devenu fou. Depuis que je suis devenu papa. Depuis que je suis devenu papa. Depuis que je suis devenu papa.
Vivante Église, Isabelle Duché.
Qu'entend-on par paternité ou maternité responsable? C'est la question que nous posons aujourd'hui à l'invité de Radio Présence, Aude Surami, maître de conférence en philosophie à l'Institut catholique de Toulouse et intervenante auprès de l'Institut pontifical Jean-Paul II de Rome et l'Institut de la théologie du corps de Lyon. Aude Surami, vous nous avez détaillé, vous nous avez défini ce qu'on entend par la parentalité responsable, et vous nous avez permis de la comprendre à quatre niveaux: les processus biologiques, les tendances de l'instinct et des passions, les conditions physiques et psychologiques, et puis l'ordre moral établi par Dieu. Maintenant, nous allons voir en quoi la paternité et la maternité responsable s'appliquent à l'éducation des enfants. Et je voulais vous faire réagir à une situation de saint Thomas d'Aquin que j'imagine vous connaissez déjà bien. Ceux qui ont été la cause de l'émergence d'une réalité doivent aussi être le moteur de son développement. Ils y sont tenus et ils en sont capables.
Une belle citation.
Ouais, très.
Ils y sont tenus. Effectivement, les parents sont tenus d'accompagner, non seulement de mettre au monde les enfants, mais de les accompagner durant toute leur vie. D'ailleurs, je pense que beaucoup de parents pourront témoigner que ça dure toute la vie, que ça ne s'arrête pas cette responsabilité, même si les modalités évidemment changent. L'amour parental a cette excellence propre qui est qu'on doit se soumettre au bien d'un autre qu'on n'a pas choisi.
L'amour en l'occurrence, l'enfant.
L'enfant, oui. L'amour sponsal, c'est le don de soi-même à quelqu'un que l'on a choisi, oui. À l'autre que l'on a choisi, et qui est appelé à devenir pour nous une aide admirable. Il est tout donné à nous, c'est pas le cas de l'enfant. Donc, cet amour parental a cette particularité de nous appeler à nous soumettre au bien de celui qu'on n'a pas choisi, jusqu'à ce que ce bien de l'enfant devienne notre propre bien, et donc un bien commun. Bien commun sans lequel on ne peut parler de communauté familiale, oui. Et bien commun sans lequel on ne pourra parler de communauté politique. Et c'est une des raisons pour laquelle la famille et la parentalité est la meilleure école politique qui soit. Et la meilleure école politique de formation de l'enfant à la politique, à sortir de la famille pour y accomplir sa vie. Mmh. Et il resterait dans la famille, ça serait incestueusement dévastateur. Oui. Donc la famille, elle est faite pour ouvrir à un au-delà d'elle-même, à la société politique, et la société politique qui est faite pour ouvrir. Pour ouvrir un bien commun jusqu'au souverain bien qui la dépasse. Et le fait que le parent se soumette au bien de l'enfant, ça veut dire qu'il se fait au moins aussi petit que lui, voire plus petit que lui. Et c'est en se faisant plus petit que lui, en se soumettant à son bien, qu'il accomplit sa mission et sa responsabilité.
C'est pas ce qu'on entend habituellement, de se mettre plus petit, plus bas que son propre enfant.
Oui, ouais. Mais c'est ce qu'on constate bien dans les familles. D'ailleurs, Charles Péguy a cette phrase magnifique dans le Porche de la Deuxième Vertu, où il dit « Enfants, nous savons bien pourquoi vous êtes les maîtres dans les maisons. Vous êtes tous des enfants Jésus. » Et l'enfant Jésus, il nous apprend à nous soumettre, à nous faire tout petit,
oui,
comme lui s'est fait tout petit, pour nous sauver et pour nous conduire vers le Père.
Cette parentalité dans l'éducation des enfants, elle invite aussi à collaborer avec Dieu, finalement.
Oui, bien sûr, parce que le but est de conduire l'enfant jusqu'à sa fin, sa fin finale, on pourrait dire, non seulement ses fins intermédiaires, mais sa fin finale qui est de trouver le souverain bien, souverain amour, qui est l'amour de Dieu. Et la responsabilité parentale, elle est là. Elle est faite pour conduire l'enfant vers Dieu. On peut se demander, mais pourquoi Dieu nous a donné cette responsabilité?
Oui, qui est immense.
Immense et effrayante. Et Péguy s'interroge là-dessus en disant, nous fragiles, nous précaires, nous viagères, mais chargés de cette immense responsabilité de conduire l'enfant à prendre conscience et connaissance et à aimer cette fin qui est le pourquoi de sa vie et qui va lui permettre de poser des actes libres. En philosophie, on dit que c'est cette cause finale qui est la fin et le principe qui nous permet, qui nous donne la raison de poser un acte libre. Il se fait toujours sous la raison d'un bien. Et donc, il nous faut connaître ce bien pour pouvoir libérer notre liberté dans des actes libres.
Vous dites, Othurami, que c'est vertigineux, mais justement, en fait, les parents ne sont pas seuls.
Non, ils ne sont pas seuls.
Heureusement.
Ils sont pas seuls. Ils ont reçu eux-mêmes tout un héritage transmis dans une généalogie de génération en génération. Et puis, ils ne sont pas seuls parce qu'ils ont une communauté aussi qui les entoure. Et ils ne sont pas seuls, évidemment, parce que le Seigneur est aussi là, présent à leur côté.
Mmh. Dieu, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, invite l'homme et la femme. Il leur dit « croissez et multipliez ». Quel équilibre trouver entre le cœur et la raison pour l'accueil de la vie ?
Alors, il est vrai que le cœur a ses raisons que la raison ignore, mais il est vrai aussi que l'amour va parfois au-delà de nos capacités rationnelles. Mais notre amour, en revanche, est quand même lié à notre raison, parce que c'est notre nature humaine qui est comme ça et qui n'est pas seulement émotionnelle. L'amour n'est pas qu'une émotion. Et je crois qu'il est important de le rappeler, parce que malheureusement, pas à Radio Présence, mais dans certains autres médias, on entend beaucoup parler de l'émotion, on dit son émotion. Mais dire son amour, c'est plus que dire une émotion, même si ça comprend l'émotion. L'amour à la hauteur de la dignité des personnes est toujours accompagné de raison. Et donc, croissez-vous et multipliez-vous. Et multipliez-vous. C'est un commandement, mais un commandement qui est reçu dans notre nature. Et le Seigneur s'adresse à notre cœur. Et notre cœur, il est lié aussi à notre
raison.
Et donc, la réponse doit être responsable. Dieu nous a créés libres et il attend que nous exercions cette liberté raisonnablement, à la clarté de son amour.
Le pape François disait le 5 janvier 2022, il déplorait tant de couples n'ont pas d'enfants parce qu'ils n'en veulent pas, ou n'en ont qu'un parce qu'ils n'en veulent pas plus, mais ils ont deux chiens, deux chats, etc. Il avait dénoncé un certain égoïsme. Et puis en 2014, il avait aussi fustigé cette culture du bien-être économique qui dissuaderait les couples d'avoir des enfants, mais les laisserait à la fin de leur vie dans l'amertume de la méchante solitude. On voit bien cette espèce d'appel du pape François à dépasser son égoïsme, oui. mais à côté de ça, à être un père ou une mère responsable pour élever ses enfants dignement.
Oui, tout à fait. Enfin, vous avez tout dit dans ces phrases. Et c'est sûr que ma raison et mon cœur, enfin, elles ne sont pas en contradiction pour dire que mon bien, c'est de recevoir l'amour de mon conjoint et de recevoir cette fécondité de l'enfant qui est un don, qui est un cadeau. Et je n'ai pas de raison de me priver de ce cadeau. Alors, je peux avoir tendance égoïstement à me dire, oui, mais les vacances au ski, les vacances au sport d'hiver, là, qui arrivent bientôt. Et si j'ai un autre enfant, je devrais peut-être m'en priver, et puis me priver des jolies robes que je vois dans la vitrine, etc. Mais je pense pas qu'il faut voir cela comme une privation, mais...
Ouais.
Mais en fait, ces choses-là sont des choses qui ne me comble pas vraiment, qui ne me comble pas profondément, alors que l'enfant, lui, me comble profondément.
Donc ça appelle à un discernement et peut-être à faire appel à la vertu de prudence.
La vertu de prudence, c'est à discerner quel est mon plus grand bien.
Quel est mon plus grand bien ? Oui. Alors, Fabrice Hadjadj a dit dans son essai « Encore un enfant », il a écrit « Nous, humains, avons besoin de sens pour donner la vie ». De quelles raisons les couples ont-ils besoin pour donner la vie ?
De la raison de l'amour, sans oublier l'amour de la raison. Et ce sens, il est dans celui d'un amour qui nous dépasse, toujours. Et si je ne trouve pas le sens dans ce qui me dépasse, dans la personne de l'autre qui me dépasse, qui est au-delà de moi, qui me surprend, je tombe dans un totalitarisme, en fait, d'un totalitarisme, une bulle d'individualisme dans lequel je m'enferme en moi-même. Et si on transpose les choses au niveau de la famille, une famille qui ne serait tournée que sur elle-même et pas sur un au-delà d'elle-même, elle deviendrait une prison, elle deviendrait totalitaire. Antoine de Saint-Exupéry, dans Citadelle, évoque la demeure, la maison. Et il dit, tu ne peux aimer une maison qui n'a point de visage et où tes pas n'ont point de sens. Et la maison, elle trouve son sens dans l'au-delà d'elle-même. Elle n'est pas un cachot ou une prison, comme le dit aussi le pape François, mais elle a des fenêtres pour s'ouvrir sur le monde, sur la cité, au-delà d'elle. Et la cité sur la communauté politique au-delà d'elle-même, et la communauté politique sur un au-delà d'elle-même, jusqu'au souverain bien qu'est Dieu et qui la dépasse. Et si la société politique ne reconnaît pas un souverain bien au-delà d'elle-même, elle devient totalitaire. Mmh. Et là, les parents ont un rôle particulier dans cette éducation politique parce qu'ils se soumettent au bien de l'autre et ils montrent par leur humilité et leur petitesse, que le bien vers lequel ils conduisent l'enfant les dépasse. Et donc, ça apprend l'enfant, par l'exemple, à reconnaître qu'il y a toujours un bien qui le dépasse.
Et donc, à faire confiance.
Et à faire confiance. Et à devenir un homme et une femme, ou une femme politique, digne de ce nom, qui reconnaît un bien au-delà de lui-même et qui ne pense pas être l'alpha et l'oméga de toute
chose.
Oui,
c'est ça. Oui, oui. Oui. Alors, pour terminer, Otsurami, je voulais vous poser une question sur l'unité du couple. En quoi cette parentalité responsable vient-elle la renforcer, cette unité du couple ?
La parentalité responsable, elle vient renforcer l'unité du couple d'une part, parce qu'elle elle nous donne l'occasion de développer notre langage de l'amour pour mieux le dire, mieux le donner et mieux le recevoir. En toute chose, il est important de développer son langage, de trouver les mots pour dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Et donc... Si la responsabilité par une abstinence de relations conjugales à certaines périodes du couple, à certaines périodes du cycle, eh bien, ça peut être l'occasion de développer un langage de l'amour un peu différent, pour mieux le dire, pour mieux se donner, pour mieux recevoir l'amour de l'autre. C'est aussi l'occasion de purifier notre amour qui est toujours misérable et qui doit aimer à la hauteur du mystère d'amour qu'est l'autre, sans jamais le prendre comme un instrument de jouissance. Ce qui ne veut pas dire que la jouissance n'est pas bonne, et Jean-Paul II nous l'explique, elle est éminemment bonne, mais l'autre ne doit pas être un instrument. La jouissance, c'est comme cette surabondance qui est donné dans l'union, cette surabondance de bien qui est donnée dans l'union conjugale et qui rayonne aussi dans ma vie sensible. Et ne pas prendre non plus l'autre comme un instrument de reproduction. Donc je crois que la parentalité responsable nous aide pour ça. Et la parentalité responsable, qui n'est pas seulement le fait de concevoir ou non un enfant, la parentalité responsable nous rend plus humbles, nous fait devenir petits, nous met au service de celui que l'on n'a pas choisi. L'enfant, on ne l'a pas choisi. Son conjoint, on l'a choisi. Et on peut demander à son conjoint d'être pour nous une aide admirable qui nous convient, qui nous correspond. On attend cela de lui. On n'attend pas cela de l'enfant. Donc, le fait que le père ou la mère se mette au service de l'enfant qui ne l'a pas choisi nous permet de mieux accueillir quiconque et les gens de notre communauté politique que l'on n'a pas choisi. Et quand bien même au quotidien, ils ne seront pas toujours admirables et l'aide qui nous convient. Donc ça, la parentalité est la meilleure école politique pour le parent et aussi pour l'enfant. Et je crois qu'elle nous invite donc à la miséricorde, à cet amour qui rejoint l'autre jusque dans sa vulnérabilité, sa petitesse, jusque dans sa misère. Et la paternité nous rend miséricordieux, comme notre Père est miséricordieux.
Voilà, la boucle est bouclée. Merci beaucoup, Tirami. Vous nous avez éclairé aujourd'hui sur la parentalité responsable, une émission à réécouter très attentivement, tellement vous nous avez dit de choses profondes. Merci beaucoup.
Merci, Isabelle.